Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Pourquoi tu cries ? Nos engagements intimes avec Leïla Tadros et Ramzi Tadros.
Je parle à son grand-père dans la chanson. Viens, là, grand-pa.
Habibi. قالوا لي إنه كانوا ينقوا عليك عقصة التوب اللي لابسه.
نحن الحضانة. حبيبي، تاريخك مستقبلي. وما بشيل التوب قبل ما يشيلوا لي جلدي. سجل أنا عربية وبعرف أصلي.
قالوا ما حدا بتغير بنفس المكان. مين يحكي لهم إحنا غير.
Pourquoi on commence par cette chanson ?
C'est le symbole de la lutte du peuple palestinien, de sa résistance par rapport à la mémoire, au lieu, à la famille, etc. Moi, chaque fois que je regarde ça, je pleure. Vraiment, j'ai l'âme aux yeux. Bien que je ne sois pas palestinienne, hein, mais c'est une cause pour moi qui dépasse toutes les frontières. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous touche dans ces mots ?
Ben... Il y a beaucoup de chansons qui décrivent la situation aujourd'hui. Et là, elle repart à zéro. Elle repart du lien avec ses ancêtres. Et elle lui pose des questions sur pourquoi il lui racontait le passé. La phrase, c'est exactement... Je veux savoir, est-ce que tu me racontais comment les gens vivaient avant pour le passé ou pour l'avenir ? Et ça, c'est des choses qui me touchent, mais je ne les aurais pas pensées moi-même. Et donc, ça va en profondeur des questions. Je saute dans un autre passage. Elle dit que je m'excuse... Je suis resté dans un monde, mais ta lumière m'a protégé. Et pour moi, c'est essentiel parce que ce n'est pas la question d'être d'origine palestinienne, mais c'est ça qui m'a fait comprendre le monde d'aujourd'hui et m'a poussé à la lutte. De comprendre cette histoire, cette injustice, par étapes. Hein. Et là... cette chanson de Zayn, pour la première fois, elle m'amène avec elle. Quoi. J'ai l'impression que c'est des mots que j'aurais rêvé de dire, mais que j'ai jamais pu dire, et elle les dit.
La Palestine, c'est l'origine de la lutte, pour vous.
Très petit, on me parlait de la Palestine perdue. Ma mère, et ça a construit ma mémoire, mon histoire. Et je dis tout clairement, je ne suis pas issu d'un camp de réfugiés. Ma famille est plutôt des notables, on n'a pas souffert la question du déplacement tel que la vivent les réfugiés. Et j'aurais pu devenir un homme d'affaires, par exemple, comme mon oncle, et ne pas me préoccuper. J'ai connu des gens d'origine palestinienne, proches de ma famille et des amis, qui, parce qu'ils étaient plutôt dans le business, s'en foutaient complètement de la cause palestinienne, même reniaient leur origine. Moi, ça a été le ferment qui m'a maintenu dans cette histoire et du coup, m'a permis aussi de comprendre les autres. J'ai beaucoup d'attachement aussi à la lutte d'Afrique du Sud contre l'apartheid, des Indiens d'Amérique et de tous les mouvements d'indépendance. J'ai été élevé là-dedans parce que je vivais en Égypte à l'époque de Nasser. Après, j'ai été en Algérie. C'était l'époque de Boumedienne, où il y avait quand même des régimes, on peut dire tout ce qu'on veut d'eux, mais qui essayaient de relever la tête. Et voilà, ça a été l'accompagnement comme ça. Et en même temps, je vivais de loin les drames palestiniens, 67, 70, Septembre Noir, le Liban, 82, Sabra Shatila. Et ça m'a construit et ça m'a mis en lien, pas pour me renfermer, mais pour aller vers les autres.
C'est une histoire de lutte, finalement, votre histoire. On va revenir sur ces différentes luttes que vous évoquez là, par petites touches. Je voulais vous demander avant ça, vous dites « je ne suis pas palestinienne, mais ça me met les larmes aux yeux à chaque fois ». Qu'est-ce qui vous touche, en fait ?
En fait, c'est bon, la lutte du peuple palestinien, sa souffrance, son exil... quand on voit les images d'expropriation, d'agression, d'assassinat, etc. Et puis moi, j'ai grandi dans une famille où on parlait beaucoup, et on parlait beaucoup de politique, notamment tout ce qui était engagement anticolonialiste. Mon père, depuis que je suis petite, on regardait les infos, il faisait la deuxième version, en disant, bon, voilà, les Palestiniens, on les a spoliés, les Palestiniens, etc. Je me rappelle, je dis, papa, mais pourquoi ? Regarde, on les a bombardés parce qu'ils disent à la télé que parce qu'il y avait des terroristes au milieu d'eux. Il me dit, mais c'est pas des terroristes, c'est les gens qui sont au milieu, c'est les résistants. Et ça, c'est un discours qui a bercé mon enfance de la part de mon père, qui lui-même a été dans le combat anticolonialiste algérien. Mais mon père ne se résumait pas à ça, justement, ne se limitait pas à ça. Il a développé par rapport à la Palestine, par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport à certains pays d'Afrique. Chez nous, Patrice Lumumba, c'était une référence. Les pays socialistes, c'était une référence. Mao, malgré le fait que ce soit une politique différente de l'Union soviétique, c'était un modèle aussi. Cuba, un symbole de résistance, malgré la pression des Américains. J'ai baigné dans tout cela et dans des contre-discours dominant. Bien que j'ai un père qui n'était pas un intellectuel du tout, il était même analphabète, mais il avait une formation personnelle et politique très importante.
Ce que j'entends, en fait, c'est que les mots ont un sens dans tout ça.
Tout
résistance, terroriste, c'est des choses qui sont actuelles aujourd'hui, effectivement. C'est quoi, pour vous, la première lutte dans votre histoire personnelle? Le premier combat, la première fois que vous vous engagez?
La première fois que je m'engage, moi, c'est dans le mouvement lycéen, dans le mouvement, même au collège, contre la loi Abi, voilà, qui allait transformer un peu les contenus. Et donc, on a mené des actions en tant que lycéen là-dedans.
C'est en quelle année, ça?
Ça, c'est dans les années 70, 74. 74, 77, voilà. Donc, mes premières luttes, mais aussi le combat antiraciste. Quand il y a eu en 73 l'attentat contre le consulat, on a fait une grève, on n'est pas allé à l'école, parce qu'à l'appel du MTA, qui n'avait pas une assise très importante, mais qui...
Mouvement des travailleurs arabes.
Qui avait diffusé des tracts dans mon quartier, et il y a eu une action. Parce que tout le reste de la communauté était encadré, en fait, par l'Amicale des Algériens en Europe, qui a été une représentation du FLN, et de l'État algérien qui disait « Non, non, ne faites pas de vagues, c'est nous on gère ce conflit et ce problème. » Alors que, voilà, et je me rappelle, les enseignants et tout, on en avait parlé, ils m'ont dit « Oui, oui, je fais grève. » Et puis après, aussi le Chili. Le Chili, le coup d'État en 71, j'étais au collège, ma prof de français nous en a parlé, j'ai dit « Oui, c'est le président qui s'est suicidé, je lui ai dit. » Il m'a dit « Non, on l'a suicidé. » Et là, j'ai mené une action de collecte de fonds, minime parce qu'on n'était pas riche, pour accueillir des familles chiliennes réfugiées. Voilà un peu ce qui... C'était pas un truc propre, finalement, à ma situation, mais c'était lié. Parce que pour moi et pour mon père, toutes les luttes étaient liées. C'était l'impérialisme contre le socialisme et le communisme. Et il y avait des différents niveaux, le mouvement des non-alignés, l'international socialiste... Et tout ça, donc, le refus du colonialisme. Vraiment comme un mode extrêmement violent de soumission des peuples. Voilà.
Et cette lutte, c'est ça qui vous réunit dès le départ? J'ai l'impression, en tout cas, j'entends un peu les mêmes luttes.
On s'est connus dans une association de solidarité avec la Palestine. C'est là le début de notre relation, d'abord militante, on va dire, et puis très vite, on s'est réunis dans la vie. On a découvert... On n'était pas 20 ans, on était plutôt la trentaine, qu'on a vécu des choses en parallèle sans se connaître, que ça soit à la fac ou la question de l'Algérie ou les luttes, vraiment c'était parallèle, mais on se croisait pas, voilà. Et on se croisait, mais on se connaissait pas, voilà. Voilà, et c'était le début de notre relation. C'est vrai que tout cet engagement, à la fois politique et intellectuel, nous réunit beaucoup, à Leïla et moi. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, lutter?
Alors, je pense que, selon les périodes, avec l'expérience... Le mot va prendre des sens différents. Mon premier engagement, c'était de faire un volontariat dans les camps de réfugiés au Liban. À l'époque, il y avait encore le camp de Tel Zatar, et j'allais deux fois par semaine avec des amis, mes sœurs qui étaient très engagées aussi, pour aider les gens du camp pour construire des abris, parce que c'était un camp qui était bombardé souvent, c'est en 73, hein, et il fallait faire des abris, donc on allait pour travailler dans les abris, mais aussi dans des réunions d'échange avec les structures militantes palestiniennes. Donc ça, c'était un type d'engagement. Quelques années après, j'allais vers les mêmes personnes, qui étaient déjà chassées de leur camp de réfugiés de Tel Zarta, puisque le camp a été détruit. Et j'ai donné des animations autour de l'histoire de la Palestine aux orphelins de Tel Zarta. Et ça se passait à Sabra et Shatila. Vraiment, là, à la fois, mes passages militants là, au Liban, dans les camps, est lié à la grande histoire, avec ces camps qui résonnent dans la mémoire palestinienne et dans la mémoire des luttes comme des faits marquants. Bien sûr, il y a la réflexion politique et l'action en France, hein. Dans ce qui se passe en France, pour les élections, les luttes syndicales. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question fondamentale pour moi, c'est l'analyse de ce qui se passe, décortiquer les événements, les expliquer de manière historique. Parce que je pense que ça, c'est l'enjeu fondamental aujourd'hui par rapport à la question palestinienne, mais à d'autres questions. On est en train de nous abreuver d'un récit qui est faux. Et il faut lutter contre ce récit faux. Et c'est venu depuis très longtemps, cette histoire, pour moi, parce que j'avais entendu mes oncles, les gens de ma famille qui ont vécu la catastrophe de 1948. La première fois, en première, j'étais dans un lycée français, je regarde un bouquin d'histoire de lycée, et je vois qu'ils disent exactement le contraire de ce que me disaient mes oncles. Donc je ne savais pas. J'ai dit, si ils mentent tellement sur la réalité palestinienne, alors qu'est-ce que ça doit être sur les autres pays, l'Afrique, l'Amérique, etc. Et c'est pour cela que je me suis inscrit dans des études d'histoire.
Même si je suis d'une génération qui est née en exil ici, à Marseille, Mon père, je parle beaucoup de mon père parce que c'est lui qui m'a formée en vérité. Même si des fois il y a eu un peu quelques résistances parce qu'il me trouvait un peu trop gauchiste. Quelquefois, alors que lui, il était plutôt style URSS, bloc socialiste. Mais on débattait. La première lutte un peu importante, ça a été justement avec l'Union nationale et le comité d'action lycéen, l'UNCAL à l'époque, ça s'appelait, et par rapport à la loi ABI. Mais en même temps, j'ai mené des activités avec des enfants du quartier qui étaient complètement négligés. C'est-à-dire que les communistes du quartier ne faisaient aucun travail vis-à-vis de nous, parce que j'ai grandi dans un bidonville avec une majorité de population tunisienne et algérienne. Style avec le 80% n'avait pas l'eau à la maison, pas accès ni aux bibliothèques qui n'étaient pas développées à l'époque, ni à la culture, ni à l'anime, aux trucs d'éducation populaire. Il y a des quartiers comme la Cabucelle ou même la Caillole, il y avait quand même des actions, des activités qui étaient faites, tandis que nous, rien. C'est les seuls à avoir fait des activités, ce sont les curés. C'est la jeunesse ouvrière chrétienne qui a mené un travail là-dessus. Et très vite, j'ai intégré le groupe en tant qu'adolescente, un peu adulte. Et j'ai fait de l'animation tous les mercredis dans mon quartier auprès des enfants.
Si j'en reviens à cette chanson qu'on a vue, on est aujourd'hui en 2025, on regarde cette chanson et on est touché par ces mots qui utilisent des mots qui vous touchent tous les deux particulièrement. Donc la musique, finalement, fait aussi partie de la lutte. Et elle permet aussi de transmettre peut-être des choses à des générations qui n'ont pas peut-être cette vision que vous avez aussi.
Cette période a été propice à ces créations qui sont multiples, hein, mais qui sont pertinentes, beaucoup. Vraiment, cette situation de ce génocide, cette affreuse opération sur Gaza a fait prendre beaucoup de la conscience à beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que dans notre milieu militant lié au monde arabe, il y a toute une tradition de chants qui étaient fondamentaux. Le cheikh imam en Égypte, Marcel Khalife au Liban, et d'autres, Ahmed Karbour, etc., qui étaient dans le milieu où on était, des soleils pour nous. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les pays dont on parle, l'Égypte, etc., vivaient sous des dictatures, et avoir ces voix critiques qui venaient par la chanson, c'était presque les seuls messages qu'on avait. Et ils étaient extrêmement écoutés. Et moi, j'ai vu une scène parce que je travaillais à un endroit où on avait invité le cheikh imam, qui est un chanteur aveugle égyptien, qui était venu à Marseille. Les jeunes sont rentrés le voir dans l'endroit où les artistes se reposent. C'était comme si un catholique allait voir le pape. Il se mettait à genoux, il lui tenait la main, c'était incroyable. Pourtant, c'est un homme très modeste, c'est pas du tout un truc. Mais les chansons de cheikh imam jusqu'à aujourd'hui, hein, au début des affaires, il y avait il était beaucoup reprise la chanson aux Palestiniens qu'il avait écrite dans le temps. Donc, je pense que c'est vraiment un fil conducteur et un outil extrêmement puissant, et j'aimerais que cette chanson-là qu'on a écoutée soit diffusée le plus largement possible.
Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que la cause palestinienne, très vite, donc c'était un symbole. Je ne savais pas écrire l'arabe, je ne parlais pas arabe, etc. Donc je suis allée voir l'épicier tunisien de mon quartier, qui était arabisant, et je lui ai dit de m'écrire « Palestine, nous sommes avec toi » en arabe. Et sur mon cahier de texte, j'ai collé la photo de Yasser Arafat. Okay. Donc, et puis, ne connaissant pas l'arabe, mais quand j'ai compris le sens des chansons, et comme on les a traduites, notamment, et des poèmes, notamment quand j'étais à la fac, j'ai appris par cœur les chansons. Alors que je ne suis pas arabisante, je les ai transcrites en phonétique, et je les chantais. Rien ne me conduisait à ça. Hein. D'abord, j'ai grandi dans un quartier en France, à dominante kabyle, où là, la langue arabe n'était pas parlée. Et puis, mais toujours ce symbole, je crois que pour moi, la Palestine, elle symbolisait l'ensemble des luttes du monde. Il y a eu la guerre du Liban, il y a eu Septembre Noir, tout ça. Moi, j'étais préado, etc. Mais vraiment, c'était quelque chose auquel j'étais très sensible. Et souvent, des gens ne comprenaient pas. J'en parlais avec mes collègues de classe, etc. Ils me disaient, mais c'est à quoi ça te concerne? Et c'est loin, tout ça. Et souvent, je revenais à la Palestine, qui était vraiment, pour moi, un symbole et l'admiration de la résistance et de la résilience. À l'époque, on ne disait pas ce mot, mais de la résistance du peuple palestinien. Et ça a bercé toute ma vie.
En 83, avec la marche contre le racisme et pour l'égalité, un des symboles, c'était la kéfiyeh déjà.
Alors j'allais dire que ça peut même créer effectivement des liens dans les luttes finalement, la musique, les symboles effectivement, parce qu'on voit que ces chansons elles sont transmises et qu'elles parlent y compris à des personnes qui vont lutter peut-être pour d'autres sujets finalement mais qui vont reprendre ces messages-là, ça fait le lien entre les luttes.
Pour faire un peu d'histoire, il faut savoir que justement, le mouvement des travailleurs arabes, par exemple, cette période des années 70, la question palestinienne était fondamentale. Et les plus grandes manifestations étaient sur la question de la Palestine. Ils faisaient du théâtre, le groupe s'appelait la Rasefa, c'est la tempête, mais c'est le nom aussi d'une organisation palestinienne. La question palestinienne était centrale. Et c'est ça qui a mobilisé les gens d'abord dans les facs, etc. C'était beaucoup aussi des étudiants qui venaient du Maroc, d'Algérie. C'était pas
pas nous les enfants d'émigrés, mais nous les enfants d'émigrés, on a été initiés, on a rejoint. Justement, il y avait un petit décalage, mais il y avait quand même quelque chose de fondamental et il y avait une union là-dessus.
Autre que les chansons, il y a des figures. Voilà. Il y a France Fanon, bien sûr, mais il y a Angela Davis, il y a même des gens... Sankara. Mais bon, c'est
plus tard. Mais c'est vrai que... Nelson Mandela, Marcel Che Guevara, tout ça, c'est des noms qui nous parlent, qui sont des porteurs de notre construction.
Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que là, il y a j'ai pas encore repéré la source, mais elle est extraordinaire. C'est en arabe, ça circule sur les réseaux sociaux, des petites phrases de Che Guevara sur la situation. Un truc incroyable. Okay. Hein? La dernière que j'ai lue, c'est il dit « Ils vont faire en sorte que tu t'occupes du boulanger, du boucher, du vendeur de lait, comme ça, tu ne pense pas à ceux qui vendent de ton pays.
يا طالع عين عين للجبل يا مول للمقيدين النار بين لليمن يمن عين للهنا يا روح ما بعتي منك لكم خلعة ولا لا 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 بدي زو النار بين لليمن يمن عين للهنا يا روح.
Pendant ma jeunesse, quand même, il y avait une lutte qui était portée par des structures organisées comme les communistes, comme les syndicats, comme les mouvements de gauche. C'est pas forcément des partis communistes, mais proches, etc. Et aujourd'hui, c'est la mort de ça. Mais en même temps, j'ai été extraordinairement touchée par l'opinion publique internationale, mondiale, qui s'est rassemblée pour soutenir le peuple palestinien. Même si elle n'est pas écoutée, même si elle n'a pas de puissance. Pour faire changer les choses. Moi, quand je vois des manifestations à Oslo, des manifestations où je vois ces petits jeunes, je vois les lycées là, par rapport à l'inscription à la fac. Mais quand je les vois, ces petits, et qu'il y a le drapeau palestinien au milieu, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Je dirais, même de mon temps, quand il y avait des mouvements, il n'y avait pas le drapeau palestinien quand on faisait les manifs contre Devaquet ou Abiy ou quoi que ce soit. Donc là,
ça n'a jamais été aussi fort, aussi loin.
Ah oui.
Manifestations des Amérindiens, les choses sont claires aujourd'hui avec ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, souvent quand je me retrouve des amis, des anciens de mon âge, etc., je dis, à l'époque, on parlait presque de manière automatique, on disait l'impérialisme, etc. Là, on le voit en action, avec tout le camouflage qu'il y a, on voit bien que les Israéliens sont les mercenaires de la politique américaine. C'est tout. C'est clair. Et je pense que beaucoup de gens ont pris conscience de ça. Au-delà de l'histoire particulière de la Palestine et avec Israël, il y a cette chose qui saute aux yeux.
Ça vous donne de l'espoir, ça, malgré tout, malgré la situation ?
Non, enfin, l'espoir. J'ai pas le même espoir que quand j'avais 20 ans. Je dis, avec toute la régression qu'il y a eu par la suite, avec la suppression d'un camp, qui était le camp socialiste, qui quand même jouait un peu contrebalancé. Bon, on va pas revenir sur tout ce qu'il y a comme système, les abus, etc. Mais je veux dire, il y avait quand même une réponse au contre-pouvoir. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Et c'est vrai que bon, l'opinion publique, les membres d'action de lutte aujourd'hui, je ne me reconnais pas totalement. Parce que je suis dans la formation bien cadrée, bien organisée. C'est-à-dire, quand on faisait des réunions, on avait l'ordre du jour, il fallait développer les luttes à la fac, développer les revendications syndicales, développer, etc. C'était vraiment structuré. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Mais en même temps, c'est vivant. Et je m'interroge sur la continuité. Je trouve que c'est pas mal sloganiste et qu'il n'y a pas vraiment un truc de fond derrière. Ça se construit, je pense. Ça va se construire. Mais bon, voilà. Moi, je suis un peu désespérée du fait que les opinions publiques ne soient pas reconnues. J'ai du mal à voir un truc dessus. Je ne sais pas si je le verrai de mon vivant. Voilà. Et j'espère que mes enfants verront quelque chose de mieux. Mais je pense que là, comme on est parti sur une régression... Les autres disaient la régression féconde. Non, je ne dis pas qu'elle est féconde. Elle est désespérante. On est parti pour une régression mondiale. Et les changements, ben, ce n'est pas maintenant.
Oui, parce qu'en dehors de la question palestinienne, il y a tout ce qu'on appelle pudiquement populiste. La Hongrie, l'AFD en Allemagne, Trump. Comment un peuple éduqué quand même, malgré tout, finit par élire un président de ce type. Donc ça interroge. Mais en même temps, ça interroge et ça pose la question mondiale. Il y a là une question de nous et les autres. Trump, je dirais que quelque part, c'est plus clair que Biden. Biden faisait des choses en douce et il les camouflait. Il faisait des déclarations sur les pauvres, il faut arrêter les bombardements, enfin, il ne faut pas massacrer. Il mettait des lignes rouges, mais ça ne servait strictement à rien. Au moins, celui-là, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. C'est un manipulateur, c'est un fasciste, mais voilà, c'est clair. Alors, c'est là que le désespoir peut quand même donner de l'espoir, c'est que les choses vont être plus claires. Quand ils vont mettre dehors des millions de fonctionnaires tels qu'ils le prévoient, j'espère que beaucoup d'Américains qui ont voté Trump vont comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis, en même temps, ce qui s'est passé à Gaza est fondamental. Parce que tenir dans ce petit territoire encerclé depuis 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les bombardements, les destructions, les morts, les assassinats, tenir, ça veut dire que si dans un petit territoire encerclé, enfermé, on peut tenir, dans d'autres situations, peut-être on pourra tenir beaucoup plus.
Là, on parle d'espoir, de désespoir. Vous êtes quand même de vie de lutte. Il doit y avoir des victoires aussi, sinon on ne tient pas. Est-ce que vous avez des souvenirs de moments de lutte où vous vous êtes dit « Là, on a atteint quelque chose, ça me redonne de la force pour continuer. »
Oui, il y en a eu des trucs. Il y a eu les trucs, la marche pour l'égalité qui a développé les cartes de séjour, parce que c'est très aléatoire. Au moins de 10 ans, par exemple, parce que c'était vraiment l'arbitraire total là-dessus. Il y a les lois antiracistes. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la loi de Vaquier qui n'est pas passée à la fac.
Il y a la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'était quand même quelque chose qu'on n'imaginait pas, qu'un jour ce régime allait s'effondrer. Il y a aussi le Vietnam. Et malgré tous les forces qui ont été mises contre ce peuple, il a tenu. Bon, après, on peut critiquer le régime, etc. Mais ils ont fait le boulot qu'ils devaient faire. Rester indépendant, etc. Il y a des choses comme ça qui sont importantes et qui, au contraire, qui nous font tenir, qui nous disent voilà, on peut se débrouiller, on peut tenir le coup et on peut même gagner. Elle est plus pessimiste que moi.
Pourquoi ? Je suis plus pessimiste parce que justement, les modes d'organisation nouveaux sont à construire et ça leur prendra du temps. Une résistance et une prise de pouvoir par des forces non réactionnaires, ça prendra du temps. Parce que vraiment, c'est dur, très dur. Ça prendra du temps et j'ai pas la patience.
J'ai l'impression que vous avez déjà été pas mal patiente.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais je veux dire, comme pour rejoindre Ramzi, moi, grâce à mon papa, après, je me suis engagée pour la Palestine, mais ce qui est marrant, et dans le syndicat étudiant, propre aux Algériens et celui de l'UNEF, mais j'étais aussi au comité contre la répression au Maroc, au mouvement contre l'apartheid, au parti communiste algérien, alors que j'étais d'ici, c'était vraiment romantique. Hein. Comme à des moments donnés, beaucoup d'Espagnols, des descendants d'Espagnols qui étaient au parti communiste espagnol quand il y avait Franco, mais qui n'avaient pas vécu là-bas, qui ne connaissaient pas vraiment la réalité, si ce n'est par l'information. Et moi, on me disait, mais pourquoi tu n'es pas au PCF ? J'ai trouvé que le PCF avait un côté un peu colonialiste encore, à l'époque, pas colonialiste de principe, mais dans les attitudes. Et même le fait que, par exemple, ils négligeaient le travail dans mon quartier. Dans le Parti communiste, c'est une banlieue rouge, l'Estaque. Je suis née à l'Estaque. Hein. Banlieue rouge, etc. Mais pourquoi ils n'ont pas fait des actions, des activités avec nous ? Parce qu'on ne votait pas. J'avais des sympathies. Pour moi, c'était mes frères. Hein, quoi. Mais je veux dire, j'ai choisi d'être dans le Parti communiste algérien, qui était surtout basé sur là-bas. Bon, on a développé des pistes de travail sur l'immigration, par exemple, et sur les syndicats, etc. Mais c'était vraiment basé sur l'Algérie.
Après, j'ai l'impression que ça fait aussi partie de la lutte, ces enjeux politiques. Vous parliez de la marche pour l'égalité. On a fêté les 40 ans l'année dernière. Moi, j'avais assisté à une rencontre où une des personnes qui a participé à la marche disait... Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, je me dis parfois pourquoi on a fait tout ça, à quoi ça a servi en fait finalement. Il y a aussi ces enjeux-là.
Ça a servi pendant un certain temps. Voilà, à un moment donné, c'était bien que black beurre soit chic. D'être beurre, c'était devenu beau. C'est une période comme ça un peu qui a duré un an, deux ans et qui n'a pas duré longtemps. Mais moi, par exemple, quand le petit Naël a été assassiné, je suis allée à la manifestation. Et quand j'ai vu la police, quand j'ai vu comme les gens nous regardaient, quand j'ai vu les jeunes qui ont craqué, qui ont brûlé les poubelles, quand j'ai vu qu'ils nous ont nassés, qu'ils ne voulaient pas qu'on sorte, etc., je me suis dit, putain, 73, ça m'a renvoyé à tout ça, j'ai failli avoir un malaise. Et je n'ai pas pu rester tellement, j'étais au bord de l'implosion. Je me rappelle, j'ai dit, bon, je ne vais pas rester, je pars, je rentre, tout en me disant, il faut protéger ces petits qui vont se faire tabasser par la police. Mais je ne suis pas arrivée. J'ai dit bon, je rentre. Et vraiment, j'ai mis quelques jours à m'en remettre. Petit Naël, qui est soi-disant français, troisième génération, encore, on va encore payer pour ça. Et ça, c'est très dur pour nos enfants encore.
Je pense qu'il faut toujours regarder le passé et creuser. On a parlé tout à l'heure des victoires. Vietnam, Afrique du Sud. Mais il y a d'autres victoires qu'on oublie un peu. L'Irlande. L'Irlande, pour qu'elle ait la position qu'elle a aujourd'hui sur la question palestinienne, c'est à cause de son histoire. Ils ont vécu la même chose avec le mandat britannique en Palestine. Les flics, les généraux qui géraient la répression en Irlande sont venus en Palestine. Regardez l'Irlande aujourd'hui, la position qu'elle a. Et je dirais même l'Espagne. Après la nuit noire du franquisme, regardez la position qu'a l'Espagne. Je ne juge pas tout à l'aune de la Palestine, mais c'est un révélateur. Un révélateur que les choses peuvent changer. Moi, comme j'ai beaucoup aussi suivi l'histoire de l'immigration, je suis pas aussi... Il y a de quoi craindre des catastrophes. Hein. Je parle, par exemple, pour la France, hein, avec la montée du Front National, et surtout le fait que les autres partis adoptent les mêmes discours, les mêmes... Je ne vais pas donner des détails. Hein, mais c'est ça le problème depuis le début. Depuis le début de la montée du Front National, c'est-à-dire que les partis qui se disent républicains, ce n'est pas le barrage au moment des élections, c'était la critique du discours sur des bases de réfléchies, pas sur des bases uniquement morales. C'est ce que, aussi, pendant longtemps, on a lutté sur le niveau moral. Alors, c'est pas bien le racisme, etc., mais il y a d'autres choses qui sont là-dedans, d'autres réalités économiques, sociales, qui n'ont pas été prises en compte par les gens qui luttaient contre le Front National. Et en plus, beaucoup ont emboîté le pas en croyant capter les électeurs, mais... On capte jamais les électeurs d'un mouvement d'extrême droite. Il va jusqu'au bout, et une fois que le bout est atteint, eh ben les gens vont se réveiller après. Le côté positif, pour moi, des luttes, c'est qu'il faut pas les regarder comme quelque chose. On va le grand soir et on va faire la révolution et la société sera merveilleuse. Non, c'est un truc, un combat. Continue. Par exemple, j'ai rêvé d'une Palestine libre et indépendante. Mais j'imagine déjà, dans mes rêveries, j'imaginais que, une fois, je me disais, quand il y aura un État palestinien, il sera ouvert à tous les réfugiés. Voilà. Mais je sais que ça sera un autre combat à mener en interne, dans la société palestinienne, parce qu'il y a aussi des bourgeois, des réactionnaires, etc., ne serait-ce que de voir l'attitude actuellement de ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. C'est désastreux, c'est désastreux. Donc, je crois à quelque chose d'évolutif, mais il faut être... toujours vigilant et toujours remettre, comme on dit, le métier à... Et peut-être que l'arme fondamentale, c'est vous, les journalistes. C'est les médias, aujourd'hui.
Alors, j'avais parlé de transmission, pas forcément juste de médias, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un enjeu de transmission dans ces histoires de lutte, et c'est ce qui est aussi au cœur de cette chanson, c'est qu'est-ce qu'on transmet finalement, pas pour rester dans le passé, pour l'avenir. Comment vous avez transmis ça, vous, à vos enfants ?
On l'a transmis, en tout cas, ils ont toujours repéré qu'on était engagés, ils ont manifesté avec nous en poussette et par la suite.
C'est plus par l'exemple. Ouais. C'est plus par l'exemple que de dire voilà, vous devez être comme ça, ou c'est bien d'être comme ça, ou c'est, voilà, on n'a jamais fait la leçon morale. Ils nous voient comment on est. Et des fois, on est étonné de leur position positive, leur analyse.
Et puis moi, j'ai connu des gens qui ont obligé leurs enfants. Là, je disais toujours, voilà, tu viens à la manif ou tu viens pas. Je t'explique pourquoi c'est. Tu fais comme tu veux. Je me rappellerai toujours de mon ami Abou Jamal, Il y avait une manif sur l'ambassade des États-Unis. Il y avait Nicolas, notre fils, qui dit « Leïla, mais qu'est-ce que c'est ?» Alors je lui dis « Voilà. » Je lui ai dit « Tu choisis. » Moumé Abou Jamel, il a été emprisonné de façon arbitraire parce qu'il était proche des Black Panthers. Je lui explique. Il me dit « Ah, d'accord, alors je viens. » Après des manifs contre le racisme, de soutien à l'Algérie, quand il y a eu le, comment dire, pour soutenir notamment les femmes, le code de la, contre le code de la famille, etc. Ils ont été avec nous. Les derniers, après, quand ils étaient enfants, ils étaient impulsés. Après, plus adultes, ça dépendait. Ça dépend. Mais par exemple, notre dernière, elle était dans les actions lycéennes. Elle est venue à des manifestations. Contre le racisme, etc. Mais globalement, en tout cas, ils ont au fond d'eux la Palestine. Et ça, c'est que parce que notre fille est allée en Jordanie là, il y a 2 ans, et elle a dit « Je ne peux pas aller en Jordanie sans aller en Palestine. » Donc, de la Jordanie, elle va en Palestine, elle va à Jérusalem. Elle va à Jérusalem. Déjà, ce qu'elle a subi à la frontière, c'était horrible. Et quand elle est arrivée, elle a dit, mais c'est horrible cette ville, la tension qu'il y a. Etc. Puis elle a fait un petit texte sur TikTok, ou je ne sais plus quoi, là, sur Facebook, où elle a décrit, et je l'ai senti touchée, etc. Alors que je ne la pensais pas aussi profondément touchée, et qu'elle se sente palestinienne. D'ailleurs, son nom sur les réseaux sociaux, c'est le nom de sa grand-mère. Un nom palestinien. Alors, parce qu'il est beau ce nom, parce qu'il symbolise sa grand-mère, la Palestine, etc. Moi, après, ils ont une forme d'engagement différente.
Ça m'avait étonné parce que dans son texte là de Facebook, nous, on n'est pas censé voir, hein, moi je ne suis pas sur Facebook, mais après je l'ai vu, où elle dit j'ai retrouvé mes racines. Je suis tombé des
nues. Elle dit nous les Palestiniens, nous les Signes, nous. Etc. Et ça nous a étonnés parce qu'elles se mettent dans le nous. Parce que c'est vrai qu'on le dit nous, mais eux, on ne le sentait pas de cette manière-là. Et on le voit aussi, les enfants de ta famille, hein, tous. Hein. Dans la famille de Ramzi, il a 2 sœurs qui ont des enfants, et pareil. Hein, pareil.
On transmet et après, ça nous dépasse.
Après, c'est des Américains, c'est des Français, c'est des Tunisiens, c'est des machins. Mais il y a un petit truc là, qui est au fond, et qui ne demande qu'à être. Qu'à être encouragé. Et...
Je pense que c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de têtes de gens exilés, enfants d'origine palestinienne, dans ce qui s'est passé là. Il y a Eliana, la chanteuse, là, chilienne palestinienne. Il y a cette chanson, et puis il y a l'autre, Dana Saler aussi. Qui...
Vous voulez qu'on l'écoute ?
Oui.
عين للجبل يا مول للمقيدين النار بين لليمن يا مول عين للهنا يا روح ما بعتي منك للكم خلعة ولا لا 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 بدي زنار بين لليمن يا مول عين للهنا يا روح إلا
Aujourd'hui, dans quel moment de lutte vous êtes ?
C'est l'époque de Internet, de...
La réflexion, de ta recherche ?
Ouais, moi, je fais une recherche historique. Et la communication aux amis de ce que je découvre, même les chansons comme ça. Voilà, c'est essentiellement creuser l'histoire. Et penser à des outils de transmission, de ne pas isoler les choses. Oui, il y a un massacre à Gaza, mais il y en a eu d'autres. Voilà, c'est ça mon militantisme aujourd'hui. On a quand même fait beaucoup de choses, des réunions, des trucs jusqu'au...
On était organisateurs
jusqu'à...
de tout ce qui était événement. On a financé une crèche
À Hébron,
on a financé
une seule,
dans l'association médicale franco-palestinienne dont on était membre et dirigeant. Oui. Après, j'ai été dans une association qui s'appelait AGL, qui travaillait auprès des jeunes adultes palestiniens du Liban. Et on faisait des actions de financement et d'information sur le statut des réfugiés palestiniens au Liban, qui était quand même difficile. Je veux dire, non, mais vraiment, ils avaient des boulots interdits, de l'accès, certaines universités interdites, etc. Après, on a organisé des manifs, on a des réunions où on devait faire un tract commun, qui était très pénible, très long, parce que c'était différentes organisations, différentes personnalités. Tout ça, c'était de l'engagement, des repas de financement.
Et aujourd'hui?
Des manifestations. Aujourd'hui, moi, j'ai arrêté tout ça, j'ai plus de santé. J'ai des problèmes de santé. Même les manifs, qui étaient vraiment le truc minima que je faisais, je n'y arrive plus. De les faire régulièrement. Voilà. Voilà. Donc là, je ne vois pas de quelle manière. Lui, il a son histoire. C'est un historien, c'est un truc. Moi, je suis sociologue, mais en même temps, je suis un peu. On va dire. J'ai du mal à me dire, je vais réfléchir à ça ou quoi. Je ne sais pas comment dire. Je suis frustrée, j'ai beaucoup de peine de ne pas pouvoir faire. Après, on me dit, oui, mais tiens, c'est fait, tu es âgée, tu as des problèmes de santé, etc., etc. Il faut que les jeunes reprennent la relève, etc. Mais quand même, moi, je pensais que j'irais jusqu'au bout, aux manifestations, aux sit-ins, aux machins, etc.
La transmission, c'est aussi une forme.
On a, à un moment donné, quand même... Je dis qu'on s'est retiré de l'organisation parce que ça devenait pénible. La fragmentation, le fait que des gens aussi s'engageaient pour des raisons plutôt individuelles. Hein,
de paraître.
J'ai eu l'occasion, surtout, d'investir une action de soutien à travers mon métier. J'ai été bibliothécaire et donc à travers les associations de bibliothécaires français, j'ai mené tout un programme de mise en réseau de bibliothèques à Bethléem. Et je pense que ça a été très important aussi pour moi de transmettre aussi le métier que j'avais appris et développé en Palestine. Mon militantisme pendant les 10 dernières années, 15 dernières années, ça a été ça.
Il est allé en Palestine, il avait 50 ans.
La première fois.
Et depuis longtemps, il disait, je ne veux pas y aller en touriste, je ne veux pas y aller invité, je veux y aller dans un cadre bien précis. Et ça a été vraiment le choc pour lui. Parce qu'il m'a dit, pendant tout le trajet de l'avion, il a pleuré. Et quand il est arrivé là-bas, qu'il a passé la porte de Damas, c'est ça, il m'a téléphoné, il m'a dit, je vais être avec toi à ce moment-là.
Pour rentrer
à Jérusalem, on entendait l'Eden et on entendait les cloches. Et ça, c'était un moment fort. Voilà. Et c'est vrai que, comment dire, c'était une manière très, très positive d'approcher son pays.
Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a eu plein de luttes différentes, de plein de manières différentes. On le voit, hein, les bibliothèques, les manifestations, les actions, les stands, les projets financés. Et finalement, aujourd'hui, cette parole que vous transmettez, c'est aussi un des moyens possibles, parce qu'on le voit bien que l'enjeu de la transmission, il est intéressant sur ces questions-là.
Nous, on a des groupes d'amis qui sont dans différentes associations d'éducation populaire et qui souvent nous disent « On veut que vous interveniez, on veut que vous fassiez un thème de discussion, de formation sur la Palestine, sur le colonialisme, sur des trucs comme ça. » On a essayé de faire des choses comme ça, avec un centre social où beaucoup de choses étaient possibles, qui était le centre social Agora, dans les quartiers nord. Donc on a travaillé beaucoup de jeunes des quartiers. Et ça fait plaisir de pour transmettre là. Et il y a du répondant, y compris avec le plan d'art aussi, parce que bon, souvent, ben, on a des camarades qui sont responsables ou directeurs de structure et qui n'ont pas peur d'intervenir là-dessus, parce que maintenant, il y a aussi la peur. La mémoire, moi, c'est vital pour moi maintenant. Par rapport à nos enfants, c'est plus la Palestine qui dominera dans la mémoire que l'Algérie, par exemple, ou Marseille, l'Estaque, où j'ai grandi, même pour les deux grands, vraiment, il y a quand même quelque chose qui est là.
C'est parce que c'est à l'ordre du jour. Hein.
Même avant, Ramzi. Même avant.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans vos luttes?
De continuer à transmettre et peut-être le faire de mieux en mieux. J'ai bien envie, avant de partir, de laisser quelque chose de suffisamment abouti, qui ne soit pas uniquement pour nos enfants, mais aussi pour les autres.
Et moi, j'espère qu'ils pourront vivre bien, que les lendemains qui chantent pourront chanter.
Mais la parole, elle restera.
J'espère. J'espère de tout cœur. Aujourd'hui, où toutes les voix sont censurées, j'espère.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.